Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en direct du comité Maïga pour des échos du Grand Saint-Barthélemy sur Radio Galère 88.4 et en DAB+, et en ligne sur radiogalère.org pour nous joindre le 07 49 53 87 44. À l'animation, moi Jean-Marc, malheureusement vous aurez cette malchance d'être uniquement qu'avec moi. Et bien sûr, Saïda dira deux mots, hein. Merci. Et à la technique, nous avons notre fidèle ami et collègue Sidi Diallo. Nous ouvrons cette émission avec une pensée forte pour Marseille. À l'issue des dernières élections municipales, marquées par une progression du parti de l'exclusion, renforçant les fractures entre les territoires, le nord d'un côté et les quartiers sud de l'autre. Dans une ville comme Marseille, la diversité est une richesse. Mais sans justice sociale, elle devient fragile. Et sans politique publique ambitieuse, la solidarité repose trop souvent sur les habitants ainsi que sur les associations. Ce constat résonne particulièrement ici dans notre territoire classé en QPV, quartier prioritaire de la ville, qui est le Grand Saint-Barthélemy, où les indicateurs de précarité restent de plus en plus élevés dans ce contexte international anxiogène, où selon l'expression consacrée, les États-Unis, quand l'Amérique éternue, le monde entier s'enrhume. S'explique très directement par la mondialisation, expression qui prend tout son sens aujourd'hui. Une question se pose alors, comment expliquer cette concentration des difficultés sociales dans certains territoires et observe-t-on une intervention plus fréquente du défenseur des droits dans ces quartiers prioritaires? Le défenseur des droits alerte régulièrement sur ces inégalités territoriales, les discriminations et le sentiment d'abandon ressenti dans certains quartiers. Autant de fractures que, si elles ne sont pas prises en compte, fragilisent le lien républicain et nourrissent les replis. C'est aussi cette ville qu'est Marseille, une ville contrastée, passionnée, parfois déchirée, que chantait Léo Ferré, une Marseille à la fois populaire, vibrante et traversée de tensions à l'image de celle que nous venons d'évoquer. Un morceau de musique, Léo Ferré, Marseille. Merci Sidi pour la première pause musicale.
Oh Marseille, on dirait que ta voix a changé. On dirait que la carte où partait l'Indochine, en se prenant pour toi dans le riz délavé, te pleure avec du sang et puis l'âme marine. Oh Marseille, on dirait que la mer a pleuré tes mots qui dans la rue se prenaient par la taille et qui n'ont plus la même ardeur à se percher aux lèvres de tes gens que la tristesse empaille. Oh Marseille, on dirait que Notre-Dame en fleurs s'est penchée dans le port pour boire à ton eau verte, qu'elle voyait briller comme brillent les pleurs aux yeux de tes marins que l'absinthe déserte. Oh Marseille, on dirait que le vent t'a vaincu dans la miséricorde où la vallée le traîne et que de ce mistral qui glace ta vertu, il ne reste qu'un peu d'accent qui se promène. Oh Marseille, la vie a porté sur ton dos tout ce nord qui proteste en moquant la musique qui monte de ta gorge, accrochée à tes mots, les mêmes que là-haut dans les steppes plastiques. Oh Marseille, on dirait que flottent des drapeaux qu'une toile impudique a fauchés dans des voiles, et ces bateaux perdus qui croisent sous ta peau se souviennent de toi dans la gorge des squales. Oh Marseille, on dirait que les saisons se noient dans ton ciel portuaire où la lune s'affaire à compter les bateaux qui lui parlent de toi jusqu'aux galions perdus qui se croient nucléaires. Oh Marseille, on dirait que le peuple et le roi ne savaient plus quoi dire et ne savaient que faire quand bouillait la colère, et 89 fois ils ont mis sur ton nom une chanson misère. Oh Marseille, on dirait que Shakespeare a l'accent, qu'il a quitté son Angleterre et ses manières, qu'il t'apporte une rose et Joliette dedans avec des Roméo grimpant des canebière. Oh Marseille, on dirait que le cœur te va bien, comme te l'écrivait Guillaume Apollinaire. Ange frais débarqué à Marseille hier matin, on débarque toujours les amours passagères. Mais qu'importe ton ciel qui se prend pour l'Orient, qu'importe ton parler avec ces mots épiques, ces mots qui sortent faire un tour avec l'accent, ces mots qui ne sortent pas de polytechnique. Oui, mais quel mot Marseille? Oui, mais quel mot Marseille? Oui, mais quel mot Marseille?
quand tu mets ta musique.
Merci Léo Ferré sur les ondes de Radio Galère, les échos du Grand Saint-Barthélemy sur les ondes de la Galère. Pour commencer, nous allons exceptionnellement ouvrir avec un communiqué lu par Saïda parce qu'elle doit nous quitter, bon, pour des raisons professionnelles. Et ce communiqué concerne une action caritative menée par le groupe Gospel Tam Marseille qui a contribué les vendredis 13 et samedi 14 mars à la réussite de la commémoration des 50 ans de la disparition de Françoise Aigard. Un bilan de cette action sera prochainement dressé et sera très certainement positif. Saïda, à toi la parole.
Merci Jean-Marc. En effet, la chorale Gospel Time Marseille, dirigée par Élisée Gimut, se produira le samedi 28 mars à 16h30 à l'église Saint-Laurent. Le 28 mars à 16h30 à l'église Saint-Laurent. Dans le 2e arrondissement de Marseille, pour un concert caritatif en faveur de la scolarité d'enfants au Cameroun. Notre participation consiste à offrir des fournitures scolaires, cahiers, cartables, stylos, voire aussi une participation libre.
Eh oui, merci beaucoup Saïda et bravo. Hein. Donc c'était une très belle prestation que tu as pu fournir. Donc il faudra continuer et persévérer en ce sens-là. Bon. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une institution essentielle, mais encore trop méconnue, le Défenseur des droits. Pour en parler, nous recevons Stéphane Pianetti, qui est délégué départemental du Défenseur des droits et référent pour la défense et la promotion des droits de l'enfant. Alors, bonjour Stéphane.
Bonjour Jean-Marc.
Alors, merci d'être avec nous. Avant de revenir en détail sur ton parcours et tes missions, une première question en lien direct avec notre territoire. À Marseille, la fracture nord-sud ne date pas d'hier, mais les dernières élections semblent la confirmer, voire l'accentuer. D'un côté, des quartiers populaires marqués par l'abstention, le vote à gauche ou la progression du Rassemblement national. De l'autre, les quartiers plus défavorisés, davantage ancrés à droite. Une géographie sociale qui devient aussi une géographie politique. Ici, au Grand Saint-Barthélemy, classé en QPV, tel que je vous le disais en amont, est marqué par une forte précarité. Ces réalités sont très concrètes. Alors, pour revenir à toi, Stéphane, es-tu davantage sollicité en tant que défenseur des droits dans les quartiers comme le nôtre? Et sur quelles problématiques tu interviens le plus souvent, le plus régulièrement?
Merci pour cette question, Jean-Marc. Mais avant d'y répondre, tout d'abord, merci aux Échos du Grand Saint-Barthélemy et à Radio Galère de permettre à l'institution que je représente aujourd'hui de porter à l'antenne les enjeux d'accès aux droits et de protection des plus vulnérables. Donc l'institution que je représente aujourd'hui au micro, elle a comme mission essentielle de faire respecter les droits, de les promouvoir, de les défendre, de le dire, mais aussi de les rendre effectifs. Et tu as raison d'évoquer que sur ces territoires, nos saisines sont nombreuses. Elles sont régulières. Et en lien essentiellement avec des atteintes aux droits liées au non-renouvellement de titres de séjour, à des ruptures de droits au niveau de la caisse des allocations familiales, des ruptures de droits au niveau de la sécurité sociale et des atteintes aux droits des enfants en lien avec des situations de handicap, des refus de scolarisation notamment. En effet, sur ces territoires, les saisines sont nombreuses et potentiellement, il y a un lien entre la pauvreté, le recul du service public dans ces territoires-là, ce qui est une réalité, et les atteintes aux droits.
Quel est le mode de fonctionnement pour découvrir cette institution qui n'est pas une association, hein, nous établissons bien une différence. Alors, le mode de fonctionnement pour que l'on puisse arriver à découvrir comment vous fonctionnez, combien de personnes qui interviennent sur le département, voire au niveau de la ville. Bon, en clair.
Alors, si tu le permets, je vais présenter l'institution à deux niveaux, au niveau national et au niveau de, plus déconcentré sur le département des Bouches-du-Rhône. Le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante de rang constitutionnel. C'est la Constitution qui garantit le fonctionnement du défenseur des droits et ses missions. C'est le fruit, en 2011, lors de la réforme constitutionnelle, le fruit de la fusion entre plusieurs institutions. Vous avez probablement entendu parler de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, notamment le médiateur de la République. Donc le défenseur des droits est le fruit de cette fusion de plusieurs autorités administratives, à l'exception près que le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante de rang constitutionnel. Donc, le défenseur des droits est incarné aujourd'hui par la défenseur des droits, qui s'appelle Claire Hédon, qui a été nommée il y a 6 ans par décret présidentiel. Après avis de l'Assemblée nationale et du Sénat, le président de la République a nommé Claire Hédon, qui est assistée nationalement par 5 adjoints dans les 5 champs de compétences qui sont les nôtres. Les 5 champs de compétences... Tous les dysfonctionnements des services publics, j'irai dans le détail tout à l'heure au cours de nos échanges, tous les dysfonctionnements des services publics, la promotion et les droits des enfants, la lutte contre les discriminations, toutes les questions liées au non-respect des règles de déontologie par les services de sécurité, police, gendarmerie, douane, administration pénitentiaire, police municipale, et par déclinaison les convoyeurs de fonds et les agents de sécurité dans les supermarchés. Et enfin, en 2016, le législateur a rajouté une mission au défenseur des droits, qui est la mission de protéger les lanceurs d'alerte. Donc nationalement, la défenseur des droits avec ses 5 adjoints, et de façon... À Paris, la défenseur des droits est assistée, donc, je le disais, par ses cinq adjoints et à peu près 200 agents fonctionnaires, des juristes de haut niveau, des avocats, de hauts fonctionnaires qui accompagnent la défenseur des droits. Et par déclinaison, sur chaque département, vous avez des délégués. J'en suis un dans ce département des Bouches-du-Rhône. Il y en a au total 16 sur le département des Bouches-du-Rhône. Je suis le référent droit de l'enfant. 2 autres de mes collègues sont référents en charge de la lutte contre les discriminations. Et sur la région PACA, nous avons une chef de pôle régionale qui est chargée d'animer le réseau des délégués sur la région.
Merci pour toutes ces précisions et ces découvertes. Lorsque je parlais d'institutions, c'est quels sont, bon, tu as défini déjà le cadre et les interventions qui sont lutte contre les discriminations, et toi plus particulièrement, c'est le droit des enfants.
Tout à fait.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, même si nous reviendrons un peu sur l'ensemble de ces missions dévolues à l'institution Défenseur des droits ?
Alors, sur le droit des enfants plus spécifiquement, à chaque fois que l'intérêt supérieur de l'enfant est mis en cause, le défenseur des droits peut en connaître et peut être saisi. Qu'est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant ? C'est une notion très générale qui permet justement au défenseur des droits de se saisir quasi systématiquement lorsqu'un droit de l'enfant est atteint ou lorsqu'il est non effectif. Essentiellement sur ce département, les droits de l'enfant, les atteintes aux droits de l'enfant concernés sont notamment toutes les questions liées au handicap et à la prise en charge du handicap, la scolarisation des enfants en situation de vulnérabilité, des enfants qui seraient séparés de leur famille sans que leurs droits soient respectés, mais aussi tout ce qui concerne les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et leur prise en charge. Nous sommes régulièrement saisis sur cette thématique-là, mais aussi en ce qui concerne les mineurs non accompagnés, mineurs étrangers qui arrivent sur le territoire national et en particulier sur la ville de Marseille et qui malheureusement sont en errance dans les rues de la ville, car de très grosses carences sont observées en matière de prise en charge de ces enfants en situation de danger sur le territoire.
Et normalement, c'est de la compétence du département.
C'est pas normalement, c'est de la compétence du département, puisque le législateur a confié, lors des politiques de décentralisation, cette compétence aux conseils départementaux, et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Quels sont vos partenaires, les partenaires des défenseurs des droits? Parce qu'il doit y avoir certainement une pléiade, je l'espère du moins, d'une part, et d'autre part, quels sont les moyens que vous disposez pour faire face aux administrations, entre autres?
Alors, nous avons des partenaires, évidemment, mais surtout des interlocuteurs. Toutes les administrations sont des interlocuteurs du défenseur des droits. Je ne l'ai pas dit à l'antenne précédemment, mais je vais le rappeler ici. Toute personne mise en cause devant le défenseur des droits, personne physique ou morale, a obligation de déférer aux convocations du défenseur des droits et de répondre au défenseur des droits lorsque ces personnes-là, personnes morales ou physiques, sont mises en cause. Toute administration peut être mise en cause ou toute tout service exerçant une mission de service public peut être mis en cause devant le défenseur des droits. Ça peut être les préfectures, les collectivités territoriales, les mairies, les conseils départementaux, les métropoles, mais aussi les hôpitaux, l'école, qui est un service public, les commissariats, les gendarmeries, et par déclinaison, les services ayant une mission de service public, les caisses d'allocation familiale et les CPAM, et les caisses de retraite également.
Mais face à tout ça, bon, il faut avoir des moyens. Quels sont les moyens dont vous disposez aussi, hein? Bon, parce que ça peut ne pas être du tout évident dans la conjoncture actuelle.
Alors, c'est le maillage, la richesse de l'institution que je représente. Hein, je le disais tout à l'heure dans mon propos liminaire. Nous avons l'institution qui est basée à Paris, incarnée par la Défenseure des droits. Et dans chaque département, des délégués départementaux. C'est ce maillage départemental qui permet effectivement aux Défenseurs des droits de rayonner et de porter haut et fort les missions qui sont les siennes et surtout de rendre effectifs les droits. Alors, c'est le nerf de la guerre. Le nombre de délégués est réduit. On souhaiterait avoir plus de délégués puisque de plus en plus, malheureusement, les atteintes aux droits sont probantes et elles sont régulières. Donc, en effet, on est un peu en difficulté parfois pour répondre à toutes les sollicitations. Mais on ne laisse jamais au bord de la route une personne. Toutes les demandes, toutes les sollicitations sont considérées, toutes, sans exception.
Alors, comment peut-on saisir le défenseur des droits? Comment les choses se déroulent-elles en fonction de quelles problématiques? Alors, il y a une démarche volontaire. Bon, comment les choses se déroulent concrètement?
J'ai envie de dire par tout moyen. Le premier moyen, ce sont les délégués qui tiennent des permanences sur des lieux de proximité. Je reviendrai tout à l'heure sur une expérimentation dans ce département entre le défenseur des droits et l'Union des centres sociaux. Donc, c'est en rencontrant en proximité des délégués. Par une prise de rendez-vous simple, soit par téléphone, soit sur notre site internet www.défenseurdesdroits.fr. Je souhaite rencontrer un délégué. Il y a une prise de rendez-vous ou un formulaire de contact sur notre site internet. C'est aussi notre numéro national qui est joignable au 09 69 39 00 00, donc sur notre plateforme téléphonique. Mais aussi par courrier sans affranchissement. Donc, on peut nous écrire à l'adresse suivante, Défenseur des droits, Libre Réponse 71 120 75 342 Paris, CEDEX 07. Et puis, nos plateformes téléphoniques dédiées, la plateforme téléphonique dédiée pour toutes les questions de discrimination en composant le 3928. Vous aurez un juriste au bout du fil qui examinera avec le réclamant les difficultés et le cas échéant ouvrira une procédure. Et puis, je profite de cette antenne aussi puisque Radio Galère est une radio écoutée depuis les lieux de privation de liberté. Les personnes privées de liberté, qu'elles soient majeures ou mineurs, peuvent nous saisir depuis la cabine téléphonique qui est installée dans leur cellule en composant le numéro de téléphone le 3141. C'est un numéro de téléphone qui est accessible sans autorisation préalable d'un juge d'instruction si les personnes sont prévenues ou sans autorisation préalable du chef de la détention ou du chef d'établissement si les personnes sont condamnées. Et par exception, cette ligne téléphonique ne peut être écoutée et ne peut être enregistrée par l'administration pénitentiaire, ce qui garantit la confidentialité des communications entre la personne privée de liberté et le défenseur des droits. Donc le 3928 pour toutes les questions de discrimination et le 3141 pour les personnes privées de liberté. Et oui, si tu permets, Jean-Marc, sur ce département, je le disais, une expérimentation entre l'Union des centres sociaux associatifs et le Défenseur des droits. Une convention a été signée il y a 2 ans. J'ai l'honneur de la conduire. Claire Hédon a souhaité mettre en œuvre cette expérimentation avec la chef de pôle régional, Laurent Sudry. J'ai l'honneur de conduire cette expérimentation, je le disais. Ce sont des permanences foraines dans les centres sociaux. Nous-mêmes, dans nos rapports, on ne peut pas critiquer que l'administration s'éloigne de plus en plus de ses administrés et nous-mêmes tenir des permanences, je le dis un peu à l'excès, dans des salons dorés de préfecture ou de mairie et ne pas être au plus près de celles et ceux qui ont besoin du défenseur des droits. Donc c'est le défenseur des droits qui va vers, dans un processus d'aller vers, dans les centres sociaux. Les agents d'accueil ont été formés spécifiquement par le défenseur des droits et par l'Union des centres sociaux. Les agents d'accueil font une première lecture et ensuite me sollicitent par téléphone et je vais rencontrer au plus près de l'atteinte aux droits, celles et ceux qui ont besoin de nos services.
Oui, l'Union des centres sociaux que nous saluons, puisque nous avons reçu le mois dernier et nous avons abordé un peu toutes les problématiques en lien avec les centres sociaux. Donc, te concernant, tu fais une permanence dans quel centre social, justement, et à quel rythme ?
Alors, là aussi, c'est la spécificité, il n'y a pas de rythme. Le tempo est donné par les atteintes aux droits. Je m'explique. L'expérimentation, elle est ciblée sur les centres sociaux de l'Union des centres sociaux associatifs, sur les 11, 12, 13, 14, 15e arrondissements. Donc, les centres sociaux QPV installés dans les quartiers politiques de la ville. Et le tempo est donné par la demande, en fait. C'est en fonction de la demande, je vais me déplacer. Il n'y a pas de jour fixe de permanence. Une personne qui est atteinte dans un droit ou qui pense l'être va s'adresser à l'agent d'accueil. L'agent d'accueil va me contacter. Au début de l'expérimentation, dans les 48 heures, la personne obtenait un rendez-vous puisque je me déplaçais sur site. Maintenant, compte tenu de la forte demande, la moyenne est à peu près une semaine, 15 jours. Voilà. Donc je me déplace, c'est un aller-vers.
Donc aller-vers, et pour le Grand Saint-Barthélemy, c'est quel centre social ? Parce que nous en avons trois sur le quartier.
Effectivement, Grand Saint-Barthélemy 3, je suis essentiellement sollicité sur le centre social Agora, donc tout ce qui concerne cité Busserine, Le Mail, Picon, mais également de temps en temps le centre social Saint-Gabriel pour la Marine Bleue, le centre social Grand Canet. Et j'espère prochainement la Maison des Familles.
La Maison des Familles, et il y aura probablement aussi les Flamands, nos amis des Flamands. Donc, juste avant de faire une pause musicale, on observe peut-être, pour clarifier la situation, qu'est-ce que c'est être un conciliateur de justice ? Quelle est la différence entre un défenseur des droits ?
Alors, c'est une très bonne question. Je vais tenter d'y répondre. Donc, vous avez compris que le défenseur des droits est une institution créée par la réforme de la Constitution. Le conciliateur de justice, son rôle, c'est de faciliter un règlement amiable dans les litiges de la vie quotidienne, dans tous les litiges, on va dire, civils. Des difficultés de voisinage, des conflits de droits liés à la consommation, avec comme particularité que le conciliateur de justice n'a pas les pouvoirs du défenseur des droits et il va intervenir en règlement amiable et en médiation entre deux parties pour que chaque partie fasse un pas vis-à-vis de l'autre et trouve une solution amiable pour sortir vers le haut et éviter d'encombrer les juridictions. Le défenseur des droits, notre mission, intervient dans le cadre des atteintes effectives aux droits à chaque fois qu'un service public est mis en cause. Donc ça concerne tous les dysfonctionnements des services publics. Et notre première intention lorsque nous sommes saisis, c'est là aussi le règlement amiable. 80% des saisines du défenseur des droits, grosso modo, sont réglées au titre d'un règlement amiable, c'est-à-dire je décroche mon téléphone, je vais appeler un commissaire de police, un directeur d'hôpital, le directeur départemental des services académiques en disant « il y a une atteinte à un droit, voilà, je vous informe que le défenseur des droits est saisi, nous considérons que cette atteinte à droit est commise à l'endroit de telle personne, nous vous demandons de rectifier le tir ». Dans 80% des cas, ça fonctionne comme ça. Et puis, parfois, la machine, elle s'emballe, elle s'arc-boute, les services s'arc-boutent sur leur position et nous allons ouvrir une procédure plus contentieuse qui, pour le défenseur des droits, se nomme une réclamation-instruction. Donc la réclamation-instruction va permettre de développer d'autres artifices que le règlement amiable, donc de saisir des pièces du dossier, de se déplacer sur site pour faire des constats, dans le cadre d'une approche contradictoire, évidemment. Ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'il y a une atteinte à un droit qu'on va considérer que cette atteinte à un droit, elle est réel, donc on va avoir cette approche contradictoire aussi avec l'administration mise en cause. Et on va recueillir son avis et les réclamations sont prises en charge par le siège parisien du défenseur des droits et par les équipes du défenseur des droits dans le cadre des prérogatives qui sont les siennes, donc des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs de se déplacer sur site, de saisir des pièces du dossier et ensuite d'instruire ce dossier et, le cas échéant, au bout du bout, de rendre une décision concernant l'atteinte au droit pour laquelle nous avons été sollicités.
Mais pour ce faire, vous êtes assisté d'avocats ?
Alors, ce sont des juristes au siège de hauts juristes, des juristes de haut niveau, pardon. Certains sont avocats, d'autres sont hauts fonctionnaires de l'administration et juristes de formation dans divers champs de compétences. Et je le dis à loisir, nous avons à connaître potentiellement de tout le contentieux de la naissance à la mort, puisque au défenseur des droits, nous traitons aussi du droit funéraire.
Ah bon, c'est donc, très réjouissant.
Voilà, c'est très réjouissant, mais voilà. Donc, on traite de tout le contentieux de la naissance jusqu'à la mort.
Eh bien, nous allons procéder à une autre pause musicale, respiration musicale, et je vous propose d'écouter IAM 2104, c'est sur l'album Revoir un printemps. Parce qu'en parlant des droits, forcément, cela nous renvoie à certaines problématiques et surtout à certaines réalités, ne serait-ce que marseillaise déjà. Merci avec Aya, merci Sidi.
Être plus propre que moi, que ce serait mieux s'ils étaient autres que moi. Faut croire que c'est ton heure, avril, vas-y, allez, croque ce mois. Y'en aura plus après, ici bas, c'est comme le close combat. Rien n'a changé, même discours, toujours les roses combat. Où est-ce qu'on va? Nos convictions inspirées, trahies par nos pères, sortis qui seront les premiers à se faire virer. Je me trouve là et la leçon brute que j'en ai retirée. C'est que ce pays est une grosse pompe qui rêve de se faire cirer. Je veux pas voir nos gosses à genoux en GAV devant les fils à broussard. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir dans tout ça? J'ai pas le sang bleu, gars, je suis issu d'une famille modeste. Immigré de Naples, malheureusement, tourner nos vestes, ça paraît simple, on n'a pourtant pas de mal à faire commerce. La vie c'est ça, regarde comment nos pères et mères conversent. Électrochoc maintenant, admirant ce point de force converge. Mentalité de résistant face à celle de grosse concierge. Je garde le cap, car ton putain de gars mon père. Il rime avec mère et charter, ça gêne moi, je t'emmerde. Vivre ici, tu crois pas que j'ai bien la chance qu'on a. Mais moi je cache, j'ai pas question pour ça de vendre mon âme. Je braque mon arme, mon stylo et sa baffe sont mat. Je prie mon maître pour qu'il éclaire ceux qui sont dans le coma. Je m'assume, mais j'aide pas dans une fosse jaunâtre. Mes gosses honnêtes croisent mon doigt d'oise et une sauce tomate. Où est-ce qu'on est? On joue perso quand on se frôlate. Le masque tombe et v'là la masse, là on doit tous combattre. Ça leur pète à la cabée, ça comme une sale grenade. Je refuse de laisser un centimètre de plus cet engrenage.
Les ordres, nos corps entendent se manifester. Le jour noir qui suit la vie du coin des gros ports. Comme si nous rassions une plongée jusqu'à Sodome et Gomorre. L'encre, acre, atteste la justesse de nos gestes. Y'a toujours pas d'écrit, les ordres, nos corps entendent se manifester. Le jour noir qui suit la vie du coin des gros ports. Comme si nous rassions une plongée jusqu'à Sodome et Gomorre. L'encre, acre, atteste manifester.
Depuis ce jour, même l'air a l'air empoisonné. De nouveau cloisonné, à défaut de raisonner. On veut emprisonner, le trône a résonné. Le bouc émissaire désigné, on suffit plus de nous isoler. J'ai vu morfler, c'est gosillé. Chantant la haine contre lui-même, ça file la nausée. 400 ans de chaîne, ils ont rien mémorisé. Ils taffent en place à la mairie, donc ils seront à décoloriser. Dans le sillon creux, ils veulent nous voir ruisseler. Et en nous y poussant, espère que l'un d'eux dira les scellés. C'est bien le genre de laquais qui tiendrait le fouet pour les négriers. Prêt à rapatrier l'horreur pour quelques poubelles grillées. Ils parlent d'honneur et de cœur, de mots qu'ils ont oubliés. Comme l'île de Corée, confirmant la tâche divisée pour gagner. Potentiel dévalorisé, confiance volatilisée. Principe atomisé, c'est le retour du temps décolonisé. Traitant leur peuple de pas civilisé. En fait, ce qu'ils visent, c'est être un bon boy, comme ils disaient, en milieu autorisé.
Amenez vos camisoles, pas nos pensées, vous aurez pas le rôle. le rôle de ceux qui vont nous enfoncer. Alors qu'on sait tout ce qui s'est passé des 33, des 33. Y'a rien qui change, Hitler ou s'est passé droit avec toi. La voix du peuple, la voix maudite, celle qui tue l'humanité. L'expression, la diversité, ce que sont nos cités. La voix de ceux qui veulent que la paix meure, meure. Qu'on se divise pour nos couleurs, pour qu'on vive le fureur. Pour croire que vous êtes lâche en plus tôt, autant que vous êtes. Ceux qui pensent que le mal se résout par le mal, peut-être. Là, y'a plus que peut-être, ils ont voté pour un facho. C'est pas un vote contestataire quand on connaît Dachau.
Y'a toujours pas d'inclinaison de nos corps.
Entends ce manifeste.
Toujours noir, qui suit la vie victoire des gros porcs.
Comme si nos racines plongées jusqu'à Sodome et Gomorre.
L'encre, acre, atteste la justesse de nos gestes. Y'a toujours pas d'inclinaison de nos corps.
Entends ce manifeste.
Toujours noir, qui suit la vie victoire des gros porcs.
Comme si nos racines plongées jusqu'à Sodome et Gomorre.
L'encre, acre, atteste
manifeste.
Il ne s'agit pas seulement de venger le mal fait dans le passé, mais de parer celui qui nous menace dans l'avenir.
Toujours avec vous sur le 88.4 FM et en DAB+. Je salue mes amis, mes collègues qui auraient dû être présents plutôt que moi-même, c'est-à-dire Guy et Gary, mais ils ont eu des événements qui nécessitaient leur présence en dehors des échos. Quoi qu'il en soit, nous sommes là et nous sommes très contents d'être en compagnie de Stéphane Pianetti pour l'accès au droit. L'accès au droit qui reste aujourd'hui un enjeu majeur, notamment face à la dématérialisation des services publics. Alors, depuis plusieurs années, les démarches administratives sont de plus en plus numérisées, n'est-ce pas Stéphane ? Quel effet tu observes sur l'accès des droits ?
Alors, Jean-Marc, tu as raison de l'indiquer. L'accès aux droits est une réalité qui se dégrade aujourd'hui. Nous observons une évolution préoccupante. L'accès au droit devient un parcours d'obstacles. Complexification des démarches, éloignement des services publics et surtout dématérialisation massive. Le numérique devrait simplifier la vie, mais malheureusement, on l'observe aujourd'hui, il la complique surtout. Je prends l'exemple de l'administration numérique pour les étrangers en France, l'ANEF. Notre dernier rapport, qui date de 2024 sur cette thématique-là, met en exergue de nombreuses personnes qui restent des mois sans réponse. Des dossiers sont bloqués sans explication. Des usagers sont empêchés d'accéder à leurs droits, faute de solutions alternatives. Et derrière ces solutions, il y a des conséquences très concrètes. Derrière cette absence de solutions, les conséquences, elles sont concrètes et majeures. Perte d'emploi, impossibilité de se loger, rupture de droits sociaux et précarisation administrative. Et encore une fois, ce sont les plus précaires qui sont touchés, ou nos concitoyens en situation régulière, je dis bien en situation régulière, qui se voient empêchés de renouveler une attestation de prolongation de titre de séjour, parce que derrière cette dématérialisation, il n'y a pas d'agent pour appuyer sur la touche et traiter le dossier. Et ça a en effet des conséquences humaines dramatiques.
Parce qu'il n'y a pas de possibilité, puisque la numérisation, cela veut dire pas de contact avec une personne humaine qui pourrait orienter, qui pourrait faire le nécessaire. Blocage des dossiers, donc avec tout ce dont tu décrivais, c'est-à-dire perte d'emploi, possibilité pour le droit d'accès à la CAF, etc. Donc comment peuvent-ils réagir, par exemple, il y a différentes plaintes de cet ordre-là qui sont déposées, mais comment réagir et comment réagissent les défenseurs des droits dans ces cas-là ? Alors, il y a une forme d'impuissance, peut-être ?
Jamais de l'impuissance, toujours du traitement et toujours de l'intervention du défenseur des droits. Oui, tu as raison, un bug informatique peut devenir une rupture de vie. C'est la réalité aujourd'hui. C'est cette réalité-là. C'est l'exclusion silencieuse. Alors, à chaque fois qu'on est saisi, Tous les rapports du défenseur des droits sur la dématérialisation mettent une chose en exergue, et c'est les recommandations de la défenseur des droits. Ça ne peut pas être le tout numérique. Il doit y avoir des accueils physiques dans chaque administration. Il doit y avoir des agents qui répondent au téléphone. Il doit y avoir des agents qui accueillent le public, qui expliquent, qui accompagnent, qui traitent les dossiers. C'est malheureusement plus le cas aujourd'hui, ou très peu le cas. Le défenseur des droits est cette vigie qui alerte, mais aussi, ce n'est pas qu'une vigie qui alerte. Notre rôle, ce n'est pas que de constater, c'est de faire avancer les choses, mais c'est aussi de rendre effectifs les droits. Alors, comment les rendre effectifs ? En nous saisissant, depuis les plateformes que je vous indiquais, mais aussi en nous rencontrant physiquement dans les centres sociaux, dans les préfectures, dans les mairies, dans les points d'accès au droit, dans les maisons de la justice et du droit. Et à chaque fois qu'on est saisi sur une atteinte à un droit qui met en cause une plateforme numérique, et notamment là en l'occurrence, puisqu'on évoquait la question de l'Agence des étrangers en France, nous intervenons auprès de la préfecture en les alertant sur cette atteinte au droit et en demandant de résorber la difficulté. Aujourd'hui, c'est tout le système qui est embolisé. Dans une chaîne administrative, lorsqu'un maillon de la chaîne saute, c'est toute la chaîne qui cède. Y compris nous, nous sommes acculés à la tâche, nous sommes régulièrement saisis de ces dysfonctionnements, donc le système s'embolise et le traitement se fait de plus en plus éloigné. Et ça prend de plus en plus de temps, mais en tout cas, on ne se résigne pas. Et systématiquement, nous intervenons et nous obtenons de bons résultats. Je prends un exemple qui date de très récemment. Je reçois lors d'une permanence une dame de profession chirurgien viscéral.
Oui.
Mais ça pourrait être une femme de ménage, ça pourrait être un agent de sécurité. Donc là, en l'occurrence, et vous allez voir que cette histoire singulière, elle vient dire des choses. Cette chirurgien viscérale dans un grand hôpital du département obtient une autorisation du ministère de la Santé pour venir d'Algérie en France et opérer en France. Elle passe ses équivalences avec brio, elle obtient d'excellentes notes, elle est autorisée à opérer en France. Elle est nommée dans un premier hôpital à Paris et ensuite l'hôpital parisien la place dans un hôpital régional ici dans le département des Bouches-du-Rhône. Et elle opère avec un récépissé qu'il ne l'autorise pas à travailler, puisqu'il y a une mention sur son récépissé, n'autorise pas son titulaire à travailler. Son récépissé arrive à expiration, elle fait une demande de renouvellement sur le site de la Nef, et là c'est le blocage, le bug informatique. Depuis des mois, elle attend le renouvellement de son attestation de prolongation de première demande de titre de séjour. Donc elle décide de venir rencontrer le délégué du défenseur des droits, en l'occurrence moi sur ma permanence déconcentrée, et au regard de l'urgence, je décide d'envoyer non seulement un mail à la préfecture, mais d'appeler la préfecture en disant, voilà, il y a un sujet à ce niveau, je vous demande de le résorber rapidement. Il a été traité dans les 48 heures et cette personne a été convoquée à la préfecture pour retirer son récépissé qui désormais l'autorise à travailler. Hier, c'était une chirurgien viscérale. Demain, ça sera un agent de sécurité. Ça sera également une femme de ménage, mais ça pourra être un commerçant. Nous ne discernons pas. Toute atteinte à un droit sont traitées par le défenseur des droits, quel que soit le statut de la personne. Et j'ai omis de vous le dire, quelle que soit la personne, que cette personne soit en situation régulière administrativement ou qu'elle ne le soit pas. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que les mineurs, sur les questions de droits de l'enfant, peuvent saisir le défenseur des droits sans autorisation préalable de leurs parents.
Nous reviendrons sur cette deuxième partie. La question que je me posais, c'était obligation de moyens, obligation de résultats. Les deux, vous êtes inscrits dans cette dynamique-là ou c'est surtout obligation de moyens compte tenu de la situation de blocage, des problèmes, problématiques d'informatique ? Oui, je pose des questions qui sont bon, qui peuvent peut-être être enquiquinantes, mais bon.
Elles ne sont pas enquiquinantes, elles ont le mérite d'être posées, et dans les questions, seules les réponses pourraient être indiscrètes. Donc, ce n'est pas un sujet pour moi, et je vais y répondre volontiers. La doctrine du défenseur des droits, encore une fois, ce n'est pas que de dire le droit,
oui.
C'est de le rendre effectif. Mmh. Parce qu'on peut incanter des droits, mais si ces droits ne sont pas effectifs... ça pose question. Donc, une obligation de moyens, évidemment, ce maillage territorial, considérer toutes les demandes, évidemment, sans exception, en faisant après une analyse juridique, on dira à la personne « oui, c'est possible » ou « non, ce n'est pas possible ». Et une obligation de résultat, nécessairement, puisque notre objectif majeur, c'est de rompre avec la non-effectivité du droit. Donc on va tout déployer pour que cette non-effectivité du droit devienne effective. Et quand je dis tout déployer, c'est le règlement amiable, c'est la réclamation instruction, c'est l'enquête, c'est les recommandations faites aux législateurs ou au pouvoir public. Donc oui, je répondrai assez rapidement sur... obligation de moyens et obligation de résultats, évidemment.
Voilà, ben, merci pour cette réponse claire. Hein, donc, parce qu'au regard de ces difficultés, à un moment donné, je vais faire l'ancien combattant en disant que mieux valait faire la queue à la préfecture au boulevard Saint-Sébastien pour rencontrer une personne physiquement. Au moins, les dossiers avançaient ou il y avait un point qui était fait sur les dossiers, n'est-ce pas,
hein? Oui, c'est le nerf de la guerre. Et je le disais tout à l'heure, Jean-Marc, nous ne sommes pas opposés au numérique, mais ce numérique ne peut pas se faire sans une présence effective, une présence humaine dans les préfectures, dans les mairies, dans les administrations. C'est essentiel. Un accueil physique, humain, dans les administrations, c'est la marque de fabrique du défenseur des droits dans toutes ses recommandations.
Eh bien, merci. Alors, avant de poursuivre notre échange, on fait une autre pause musicale avec Tracy Chapman, Talking About Your Revolution. Cette chanson de Tracy Chapman est étroitement liée au thème de justice sociale, de pauvreté et de défense des droits humains. Le refrain insiste sur l'idée que ceux qu'on n'écoute pas finissent par revendiquer leurs droits, des combats qui résonnent encore aujourd'hui et qui trouvent un prolongement sous une autre forme dans l'action du défenseur des droits, engagé au quotidien pour défendre l'égalité, la justice ainsi que la dignité. Merci Sidi pour la prochaine pause musicale, pour cette pause musicale.
Talking about a revolution, it sounds
like a whisper.
Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, oh no. Talking about a revolution. Oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion.
Don't you know we're talking about a revolution? It sounds and finally the tables are starting to turn. We're talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. We're talking about a revolution. Oh, oh no. We're talking about a revolution. Oh, oh no. We're talking about a revolution. Oh, oh no.
Toujours à l'écoute des échos sur Radio Galère, donc en direct des locaux du comité Maïga, qui est implanté bien sûr dans le Grand Saint-Barthélemy. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane, Stéphane avec lequel nous entretenons en dehors de direct sur la question posée par Saïda. Cela concerne les personnes issues d'immigration qui, où il y a une problématique de barrage de la langue. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des traducteurs, d'être accompagnés? Comment les choses se déroulent? Ce que l'on disait aux antennes, c'était aussi de parler d'interservices migrants qui étaient là, qui permettaient de faire ces accompagnements et autres, d'une part. Et d'autre part, est-ce que cela demande aussi des ressources financières pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement?
Alors, le barrage de la langue chez les personnes allophones peut être un empêchement à la compréhension, déjà pour le délégué qui va recevoir, de bien comprendre les enjeux des atteintes aux droits concernant ces personnes-là, et surtout pour les personnes d'expliquer. Donc, la permanence foraine que je conduis dans les centres sociaux a l'avantage que, souvent, dans les centres sociaux, on a des personnes qui parlent plusieurs langues, et ça va aussi être facilitateur. Mais malheureusement, il n'y a pas de budget ad hoc pour prendre en charge la question de l'interprétariat. Donc du coup, si la personne a la possibilité de venir accompagnée d'un tiers qui va faire la traduction, ça sera un plus. Dans les centres sociaux, ça facilite malgré tout les choses. Et puis depuis les lieux de privation de liberté, grâce au dynamisme de notre conseiller pénitentiaire au siège du défenseur des droits, Étienne Marty, pour ne pas le citer, une convention a été mise en œuvre par l'administration pénitentiaire et le défenseur des droits. Les personnes allophones ou ne s'exprimant pas dans la langue française ont la possibilité de se faire assister d'un interprète via une plateforme téléphonique. Donc le délégué va appeler la plateforme téléphonique dans la langue dont on a besoin, quelle que soit la langue. Je crois qu'il y a une cinquantaine de langues disponibles. Et un traducteur sera au bout du fil pour traduire en simultané l'entretien que nous allons avoir avec la personne privée de liberté. Et c'est une prise en charge. La prise en charge financière est aux dépens de l'administration, puisque c'est l'administration qui va prendre en charge ses frais.
D'accord. En rentrée, nous parlions aussi de la Maison des Mondes, notamment d'Alice Attenour, où il y a beaucoup de témoins, de différentes communautés qui parlent un peu, qui peuvent aussi servir d'intermédiaires, je ne sais pas. Nous profitons pour saluer Saïd. Alors, ainsi qu'Alice Attenour.
Nous saluons Saïd Ibrahim et Alice Attenour, Maison des Mondes, qui est un dispositif porté par, de mémoire, l'association Sauvegarde 13, qui intervient dans le champ de la protection de l'enfance et qui fait un travail autour des différents mondes et des marmites, c'est-à-dire de l'histoire de chaque enfant en fonction de ce qu'il est, d'où il vient, pour rapprocher ces différents mondes et comprendre et tenter de comprendre les problématiques liées à l'enfance à travers ce dispositif. Un très beau dispositif et j'invite nos auditeurs sensibilisés aux questions de l'enfance d'aller à la rencontre de Maison des Mondes, d'aller à la rencontre d'Alice et de Saïd Ibrahim.
Donc, puisque nous sommes dans l'enfance, la protection de l'enfance, nous allons aborder un peu ce qui est de ton domaine, de ton ressort. Alors, cela concerne l'enfance, c'est l'accès à l'éducation, les situations de discrimination, ou encore les questions des mineurs non accompagnés que tu as évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire les MNA. Puis après, la question aussi qui est d'actualité, toujours autant dans nos quartiers ou ailleurs, c'est le rôle joué par les réseaux sociaux, d'une part, mais aussi la problématique du harcèlement aussi. Mmh. Donc, est-ce que vous traitez un peu, vous intervenez à ce niveau-là? comment les choses peuvent se dérouler, un enfant peut saisir le défenseur des droits pour signaler le fait qu'il est harcelé à l'école, qu'il est victime d'harcèlement et qu'il n'est pas entendu par les adultes, tant au niveau des instituts ou des professeurs que par ses parents. Comment les choses peuvent-elles se passer ?
Alors, par exception juridique, un mineur n'a pas la capacité juridique, à l'exception de deux choses. Et c'est important que nos auditeurs l'entendent et peut-être que certains enfants l'entendent aussi en écoutant Radio Galère. Les mineurs non émancipés ont deux possibilités par exception juridique de saisir le juge des enfants, y compris sans l'avis de leurs parents, et de saisir le défenseur des droits. Ce sont deux exceptions juridiques. Donc les enfants eux-mêmes peuvent saisir le défenseur des droits. Tu le disais, lorsqu'il y a une atteinte à un droit pour un adulte, ça va évidemment toucher directement les enfants pour, qui vivent au sein de cette famille. Donc, à chaque fois que l'intérêt supérieur d'un enfant est mis en cause, je le disais dans mon propos introductif, le défenseur des droits peut en connaître et peut intervenir. Soit parce que le mineur nous saisit lui-même directement, soit parce que ses parents nous saisissent directement. Je le dis là aussi, les premiers protecteurs des enfants, ce sont les parents. Mais parfois, la cellule familiale, elle peut dysfonctionner. Tout tiers ayant porté un intérêt à un mineur peut nous saisir. Ça peut être l'avocat, ça peut être un parlementaire, ça peut être une assistante sociale, un service social, une association ayant pour mission de venir en aide aux enfants peuvent nous saisir lorsque un droit est atteint et qu'il concerne un mineur. Je rappelle, puisque tu parlais de protection des mineurs, le numéro national, le 119, que tous les mineurs peuvent composer. C'est un numéro d'urgence qui fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le 119, et qui peut être composé depuis un téléphone portable, y compris lorsque le téléphone portable, lorsqu'il n'y a pas d'abonnement ou lorsqu'il n'y a pas de puce à l'intérieur, ce numéro est tout à fait joignable comme un numéro d'urgence.
Depuis quelque temps, le service de protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, est mis sur la sellette. Alors, que penser de cette situation, de cette problématique, alors qu'ils sont censés protéger aussi les enfants qui sont placés ou qui sont en difficulté d'un point de vue éducatif et autres au sein de leur univers familial ?
Ce sont des dysfonctionnements systémiques connus, identifiés. Et malheureusement, de rapport en rapport, de recommandation en recommandation, la problématique de dysfonctionnement reste pleine et entière. Mais on ne se résigne pas. Il n'y a pas de petit ou grand droit. Le défenseur des droits, ce n'est pas la police du vice et de la vertu. On ne rattache pas l'effectivité d'un droit à un devoir. Lorsqu'un droit est atteint, et notamment pour les mineurs, quelle que soit l'administration mise en cause et en matière de protection de l'enfance des conseils départementaux, nous allons intervenir. Nous ne nous résignons pas à intervenir et nous demandons à l'autorité départementale de résorber la difficulté. Parfois, les rapports se tendent, les rapports se corsent, mais nous n'abandonnons jamais. Nous allons maintenir ce rôle de vigie, nous allons maintenir ce haut niveau d'exigence pour que les droits soient effectifs, et notamment pour les mineurs. Donc à chaque fois, nous interviendrons et à chaque fois, nous menons à bien nos instructions et nous menons à bien nos règlements amiables pour que les droits deviennent effectifs.
Je reviens en amont. Ceux dont on parlait, c'était les mineurs non accompagnés. Leur situation est beaucoup plus critique. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de mouvements d'occupation par non seulement des mineurs non accompagnés, mais par des associations qui les accompagnent aussi. Alors comment apporter des réponses par rapport à ces problématiques ? Parce que d'autant plus que concernant les mineurs non accompagnés, il fallait faire la preuve qu'ils étaient réellement mineurs. Donc, je pense que vous avez dû être saisi par de telles problématiques là aussi au niveau des défenseurs des droits, non ?
Alors, nous sommes régulièrement saisis, tu as raison Jean-Marc, sur cette difficulté-là de prise en charge de ce qu'on appelle dans le jargon juridique et dans le jargon de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs non accompagnés. Un mineur non accompagné, ce n'est ni plus ni moins qu'un enfant en danger sur le territoire national. Et je crois qu'il il est important de se rappeler cette évidence. Ces mineurs, ces enfants, sont malheureusement considérés avant tout comme des étrangers en situation irrégulière. Du point de vue du défenseur des droits, du point de vue de la Convention internationale des droits de l'enfant, ce sont des enfants. Jusqu'à preuve du contraire, à charge pour l'administration de démontrer que ce sont des majeurs. Globalement, ce qu'on constate, ceux qui se prévalent du statut de mineur sont réellement des mineurs. À la marge, nous avons quelques tricheurs, mais c'est à la marge. C'est à la marge. Et malheureusement, derrière ce champ-là de la protection de l'enfance, il y a de l'idéologie politique. Et pour le défenseur des droits, c'est totalement inacceptable. Ce qui doit primer, c'est le statut de mineur et rien d'autre.
Oui, c'est ce que nous révèlent un peu les actes d'actualité lorsqu'on voit un peu cette confrontation et ces difficultés de ces gamins que l'on voit soit à la gare Saint-Charles, soit un peu partout, qui sont sous détente. Et c'est quelque chose qui est réellement lamentable pour la seconde ville de France, entre autres. Hein. Puis après, cela se passe un peu partout.
Je dirais, Jean-Marc, aussi, pour le défenseur des droits, mais au-delà du défenseur des droits, c'est la lettre et l'esprit de la loi. Ces enfants doivent bénéficier d'une présomption de minorité et non pas l'inverse. Et en ce qui concerne le défenseur des droits, nous y veillons.
Si, eh bien, vous avez beaucoup de boulot sur la planche pour nous
dire. Il y a du travail, mais je le dis, nous ne lâchons rien.
Oui. Donc la question, cela va de soi, c'est est-ce que nous pouvons penser qu'en France, les droits de l'enfant sont respectés ou y a-t-il encore beaucoup, beaucoup de choses à faire et à faire respecter au niveau des droits ?
Question malicieuse, Jean-Marc. Et alors, je prends toujours l'exemple du bulletin scolaire en matière des droits de l'enfant. C'est comme sur un bulletin scolaire, les droits de l'enfant. La France est plutôt bonne élève, mais elle peut mieux faire. D'accord. Elle peut améliorer ses scores. Elle peut améliorer ses performances en matière de protection de l'enfance. Du chemin a été parcouru, il en reste encore. Il y a malgré tout des atteintes aux droits qui sont quotidiennes, qui sont significatives. Il ne faut pas les minorer, mais nous sommes là pour y veiller, pour les combattre juridiquement et faire valoir ses droits. Mais globalement, la France est plutôt bon élève.
Nous l'avons évoqué, tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que les mineurs, y compris ceux qui sont incarcérés, peuvent faire appel aux défenseurs des droits. Donc ce qui me semble être essentiel, le moyen, tu rappelles un peu, c'est eux-mêmes, en utilisant le téléphone qu'il y a interne, sans qu'ils puissent être surveillés ou autre, pour interpeller le service.
Je me rends régulièrement à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille, à la Valentine. Les mineurs font appel à l'intervention du défenseur des droits à travers la ligne téléphonique dédiée, je la rappelle, le 3141, mais aussi par voie postale ou avec l'aide de tiers, des éducateurs de la PJJ, mais aussi l'unité sanitaire. Et leurs parents aussi, qui ont la possibilité de nous saisir sur des dysfonctionnements de l'administration pénitentiaire ou de toute autre administration en détention. Pour nous, un mineur détenu ou un majeur détenu privé de liberté, ce n'est pas un détenu au sens idéologique du terme, c'est aussi un usager de l'administration pénitentiaire ou d'une autre administration, et c'est en ce sens-là que nous allons intervenir.
Juste une question, c'est dans quel cas, par exemple, vous êtes interpellé, vous êtes saisi par une personne.
Je vais prendre des exemples précis, mais pour informer nos auditeurs, très récemment, la Défenseur des droits a rendu une décision concernant l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille sur des atteintes aux droits récurrentes, majeures, massives, en termes d'accès aux soins, à la scolarité et aux loisirs depuis le lieu de détention. Donc une décision qui a fait grand bruit après celle du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui préconisait la fermeture de l'EPM au regard de différentes atteintes aux droits. Alors pour quel motif nous sommes saisis depuis les lieux de privation de liberté concernant les mineurs ? Plusieurs sujets. Le maintien des liens familiaux, par exemple, des difficultés pour obtenir un permis de visite pour un parent ou un tiers. Une difficulté pour aller à l'unité scolaire ou à l'unité sanitaire, des difficultés d'accès aux soins, des rendez-vous qui seraient pris auprès d'un médecin spécialiste à l'extérieur de la détention. Ce rendez-vous n'est pas honoré puisque l'administration pénitentiaire ne serait pas en capacité d'organiser l'escorte extérieure pour conduire le mineur jusqu'au médecin praticien, ce qui, du point de vue du défenseur des droits et du point de vue du Code de la santé, est une atteinte au droit à la santé et c'est malheureusement récurrent. Et puis, à la marche, mais malgré tout, nous sommes saisis aussi bien côté mineur que majeur, pour ce qu'on vient qualifier en droit d'atteinte à la déontologie de la sécurité par un professionnel de l'administration pénitentiaire et notamment sur un non-respect des procédures, sur parfois des violences illégitimes sur une personne privée de liberté lors d'une fouille corporelle ou lorsqu'il y a la rédaction d'un rapport d'incident en détention. Parfois, nous sommes saisis sur le non-respect des formalités de rédaction des rapports d'incident et nous veillons à ce que le droit soit regardé au plus près et qu'au bout du bout, il soit dit du point de vue du défenseur des droits.
Et est-ce que ce n'est pas le serpent qui se mord la queue lorsque l'on a une personne, un membre de la famille ou autre, par exemple, qui est détenu, que l'on est en situation non encore régularisée, compte tenu des bugs informatiques et autres, donc les personnes peuvent se retrouver doublement pénalisées, ne pouvant pas obtenir très certainement de permis de visite, que la personne incarcérée se retrouve complètement isolée, sans droit. Alors comment les choses peuvent se passer? Comment le défenseur des droits peut éventuellement intervenir?
Alors Jean-Marc, tu as raison. Lorsqu'il y a une atteinte à un droit, en général, il y a une atteinte à des droits en cascade. C'est le rouleau infernal. Ça vient pourrir la vie de nos administrés et l'exemple que tu cites en est un, effectivement. Alors là aussi, il y aurait une relation entre le statut d'étranger et l'incarcération, ce qui n'est pas le cas. Aucun chiffre ne vient le démontrer, contrairement aux assertions de certains politiques. En effet, lorsqu'on a une personne qui n'est pas renouvelée administrativement, le titre de séjour n'est pas renouvelé. Pour qu'il y ait renouvellement du titre de séjour, on est bien d'accord, il faut que la personne soit en situation régulière. Et elle est bien en situation régulière sur le territoire national. Donc ce dysfonctionnement va entraîner une irrégularité, non pas du fait de la personne, mais du fait de l'administration. Et si cette personne doit visiter un parent en détention, effectivement, ça va bloquer la délivrance du permis ou ça va venir bloquer le processus de visite en lieu de privation de liberté. Donc, en effet, le défenseur des droits pourra être saisi et intervenir auprès des différentes administrations, que ce soit la préfecture ou que ce soit l'administration pénitentiaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une atteinte à un droit n'est jamais isolée. Elle engendre en cascade d'autres atteintes à un droit. Oui. Et c'est souvent les enfants qui sont le plus durement touchés concernant ces atteintes au droit.
Oui, nous avons eu une mère de famille dont le garçon, un adolescent âgé de 14 ans, joue très bien au football et qu'il devrait participer à un test de détection. Que l'entraîneur pense qu'il pourrait intégrer une équipe de football, aller dans un centre de formation, mais la mère, même si elle est en situation régulière, mais compte tenu effectivement de toutes ces problématiques d'obstruction, de bugs informatiques, elle n'arrive pas à régler sa situation, ce qui pénalise aussi cet adolescent. Est-ce que par exemple, dans ce cadre-là, il y a une possibilité de saisir le défenseur des droits, puisqu'au niveau de la préfecture, c'est difficile de les avoir et d'avoir des réponses concrètement?
Évidemment, oui. C'est un exemple, j'allais dire, un cas d'école. Nous pouvons intervenir dans cette logique-là et dans cette configuration-là et en lien avec ce vécu-là, cette histoire de vie que tu viens de présenter. Un autre exemple, très récemment, et là, ça a été une instruction nationale, et je remercie mes collègues au siège parisien. Nous sommes saisis par des associations concernant les mineurs non accompagnés qui ont des facultés à jouer au foot avec un très bon niveau. Donc, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, quand ils ont la chance d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et la FIFA refuse de leur délivrer une licence sur le fondement que ces mineurs sont à la fois isolés, non représentés légalement, et surtout qu'ils ne sont pas demandeurs d'asile, puisque le règlement intérieur de la FIFA prévoyait que ces licences étaient délivrées uniquement aux demandeurs d'asile. Donc, ce qui était un empêchement à tous les autres mineurs, et la FIFA refusait de cette délivrance de licence. La saisine est arrivée sur le ressort de Marseille par une association. Il y a eu plusieurs saisines nationales, et mes collègues à Paris sont rentrés en contact avec la FIFA à Genève, et nous avons obtenu que la FIFA et la Fédération française de football reviennent sur leur décision. Et désormais, je suis en capacité de le dire, les mineurs non accompagnés sur le territoire national pourront se voir délivrer une licence de foot par la Fédération française de football. C'est une, je ne vais pas dire une victoire, mais en tout cas, c'est un but marqué par le défenseur des droits.
Eh bien, ça, c'est bien. Eh bien, vive l'OM, droit au but, normalement. Absolument. Même si aujourd'hui, nous ne savons plus si c'est droit au but concernant l'Olympique de Marseille, il n'en demeure pas mauvais. Une question qui me taraude un peu, c'est la possibilité d'accéder pour le défenseur de droit à la préfecture, ce qui n'est pas le cas des communs de mortels, que ce soit au niveau association ou autre. Alors vous avez la possibilité d'accéder.
Oui, je le disais tout à l'heure, toute personne mise en cause, qu'elle soit morale ou physique, a l'obligation de répondre au défenseur des droits. Donc, on peut y accéder physiquement. Il ne peut pas y avoir d'empêchement aux missions du défenseur des droits, mais on y accède par des échanges de mails, par des contacts téléphoniques réguliers. Et très prochainement, d'ailleurs lundi, Claire Hédon sera en région PACA et en particulier à Marseille et à Aix, et elle rencontrera avec la chef de pôle régional, monsieur le préfet, pour évoquer toutes ces difficultés dans un dialogue évidemment républicain, mais également dans le cadre d'un échange franc avec le représentant de l'État dans ce département et dans cette région.
Eh bien, Sidi, nous allons refaire une petite respiration musicale, comme nous avons parlé des enfants. Nous allons écouter Zoufris Maracas, un groupe, et le morceau s'intitule « Un gamin ». Donc, c'est pour parler de l'enfance et des enfants. Merci Sidi, c'est 88.4 Radio Galère.
Les mains. Tu me laisserais du répit au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamins,
6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic, hein. Christophe, représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, tu me demanderais si je vais bien. Tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici vu que toi aussi t'es un gamin.
Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic, hein. Affolé de bandits, salaud vendu, de représentants de la force publique. Tu t'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée, les pognons à mes dirigeants, tu sponsorises les dictateurs. Tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs. Les peuples entiers dans la détresse, et toi tu es flic. Les gens s'appliquent de la volonté de l'autorité publique. Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable, mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic. Pour les bandits, ça l'autre vendu, représentant de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins. Un gamin de gamins, 6 milliards de gamins.
Et oui, galère, un petit problème technique, n'est-ce pas, Sidi ? Mais nous allons y remédier, compte tenu que nous avons encore quelques deux questions à poser à Stéphane. La première question, c'est en lien, puisque comme je te disais précédemment, le mois dernier, nous avons reçu l'Union des centres sociaux et nous avons parlé de cette notion d'éducation populaire. Je ne sais pas comment cela est ressenti au niveau des défenseurs des droits. Cette mise en application, est-ce maintenant c'est une portée tout à fait idéologique et que l'on n'arrive plus à le mettre en pratique? Oui, qu'est-ce qu'en pensez? Est-ce que les défenseurs des droits travaillent avec cette notion et la mettent en pratique aussi?
Alors, c'est loin d'être une idéologie pour le défenseur des droits et ça a été tout le sens du mandat de Claire Hédon. Que de promouvoir l'accès au droit à travers l'éducation populaire. On ne peut pas parler de droit, on ne peut pas faire appliquer un droit sans les connaître. Et une des démarches du défenseur des droits, c'est de faire de la promotion des droits, et au plus près de celles et ceux qui seraient atteintes dans leurs droits. À travers des démarches de proximité. On parlait de l'expérimentation dans les centres sociaux, mais j'ai aussi l'honneur moi, de conduire une démarche qu'on appelle les cafés du droit et qui se situe sur la commune de La Ciotat, dans les locaux de l'association Le Cana. Je vais tous les mois à la rencontre d'habitantes et d'habitants, en l'occurrence des habitants de l'Abeille à La Ciotat, qui est un ancien quartier politique de la ville, où on va évoquer dans une forme de co-construction avec les habitants. Alors je pense à Fatine, je pense à Mouna, je pense à Karima, à Bibiche, mais aussi à Madi, à Jade, à Ilias et à d'autres qui viennent participer au Café du Droit, à Christelle, qui viennent évoquer avec le représentant du défenseur des droits ce qui les taraude en matière de non-respect des droits, des difficultés avec la CAF, difficultés avec la sécurité sociale, difficultés avec la préfecture. Et ensemble, on va co-construire cette démarche de décortiquer où est l'atteinte au droit et de comment ensemble on peut la résorber. Donc, c'est ça vient créer de l'entraide entre les habitants et ensuite, ça vient aussi permettre de cibler quelle aide potentielle on peut proposer. Alors, le défenseur des droits, une association spécialisée dans telle ou telle démarche. Et c'est aussi ça, l'éducation populaire, de permettre à chacun de s'élever au sens noble du terme, de prendre de la hauteur, de s'élever et de pouvoir analyser les difficultés dans lesquelles ils sont prises et d'apporter des solutions collectives.
Territorialement, ici, dans Grand Saint-Barthélemy, tu connais déjà Anne-Marie, notre amie Anne-Marie Tagawa.
On salue Anne-Marie Tagawa. Voilà,
est-ce qu'au niveau du groupe de veille, tu as été interpellée par rapport à toutes les problématiques du quartier, ne serait-ce que par rapport à la particularité de la copropriété sinistrée de Maï? Donc, je suppose que peut-être on t'a interpellé pour voir un peu qu'est-ce qu'il y aurait quoi faire, ne serait-ce que par rapport aux différents conseils syndicaux qui ont été sur cette copropriété, etc., etc. Donc, ça questionne aussi le droit des propriétaires, des anciens propriétaires, avec des logements qui sont complètement squattés et qui ont perdu complètement leur valeur aussi.
Alors, non seulement je connais Anne-Marie, mais j'ai, au-delà d'être sollicité par le comité de veille, j'ai été invité par Anne-Marie et ses collègues. Alors, concernant toutes les questions liées au logement et en particulier toutes les problématiques liées à la copropriété du Mail, ça induit des relations de droit privé entre les différentes personnes, donc le défenseur des droits n'a pas à en connaître. Donc, on ne peut pas intervenir, mais ces échanges ont eu lieu, et notamment ils ont eu lieu au Centre social Agora lorsqu'il y a eu place au droit en présence de Claire Hédon. Une belle manifestation, mais au-delà d'être une manifestation, de belles rencontres entre les habitants et la défenseur des droits et des échanges sur ces thématiques-là. Mais lorsque j'ai été invité par le comité de veille et par Anne-Marie et par les jeunes du territoire du Grand Saint-Barthélemy au Centre social Agora, nous avons évoqué toutes les questions liées à la justice des mineurs, toutes les questions liées au contrôle de police dans le quartier. Et on voit que c'est des questions qui reviennent régulièrement. Et là aussi, l'intervention du défenseur des droits, c'est de rappeler que le droit n'est pas un empêchement, le droit protège. C'est sa première fonction que de protéger. Que le défenseur des droits est aussi garant des droits et des libertés fondamentales et des libertés individuelles. Et échanger, parler, dire, analyser une difficulté, c'est commencer à identifier le problème et c'est aussi le début de la solution. Je ne dis pas que c'est simple, c'est tout un processus, mais ce processus-là, l'éducation populaire y participe et c'est ce en quoi le défenseur des droits, dans son exigence de faire respecter le droit, participe à ce type d'intervention au titre de la promotion de l'institution. Parce qu'on considère que connaître un droit, c'est le faire aussi respecter.
Oui, le droit à la santé, le droit à l'éducation, lorsqu'on
le droit au loisir, le droit à la culture.
Oui, parce que lorsque l'on observe, par exemple, pour l'école, la difficulté, c'est dans nos quartiers, c'est l'absence de spécialistes lorsqu'on se trouve confronté à des problématiques de 10 au niveau des enfants. De motricité aussi, etc., etc. Ça, ce sont des droits, normalement, qui relèvent de qui et, okay, bon. Donc là, c'est effectivement extrêmement criant et que cela nous questionne,
C'est toute la problématique, finalement, de notre entretien aujourd'hui. Le droit est là, le droit protège, le droit est garanti. Mais c'est la problématique de l'effectivité du droit. Comment le rendre possible, comment le rendre effectif. Et c'est là où on pêche. Et c'est là où il y a une difficulté, le droit à la santé, le droit à une prise en charge spécialisée. On parlait tout à l'heure, durant la pause, de la MDPH et des notifications. La MDPH rend des notifications. La MDPH oriente les enfants en situation de handicap. Le problème, c'est la prise en charge.
Oui, comme pour les enfants placés aussi.
Comme les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Alors, là où on est un peu en difficulté, moi, je ne vais pas hiérarchiser le handicap. Un enfant en situation de handicap et qui bénéficie d'une notification MDPH a le droit, au bout du bout, à être pris en charge par un spécialiste. Le problème, c'est que si le défenseur des droits intervient pour un enfant et qu'il n'intervient pas pour un autre, il va commettre une rupture d'égalité. Je ne peux pas dire un établissement cet enfant est prioritaire à un autre, je commets une rupture d'égalité. Par contre, notre rôle de vigie et notre rôle d'alerte, c'est de dire aux gouvernants et aux pouvoirs politiques, attention, il ne suffit pas de rédiger des notifications, c'est la question du numerus clausus finalement. Il y a des notifications, mais il n'y a pas le nombre de places disponibles. Donc il faut, encore une fois, que les politiques publiques s'harmonisent et se mettent en adéquation avec les besoins du quotidien, ce qui n'est à ce jour pas le cas.
Eh bien, compte tenu de l'heure qui nous est impartie, je te remercie vivement de ton éclairage extrêmement important et précieux que tu nous as apporté. Donc, sur les questions essentielles en lien au droit. Donc, alors, peux-tu rappeler comment te contacter, comment contacter le défenseur des droits et voir un peu la saisine, rappeler un peu comment saisir le défenseur des droits.
Encore merci, Jean-Marc. Et à Radio Galère pour cette invitation. Alors, plusieurs canaux de saisine, je le disais, hein, par l'intermédiaire des délégués en proximité, les tribunaux, les préfectures, les mairies, les maisons de justice et du droit, la permanence foraine dans les centres sociaux, en me contactant directement ou en contactant l'agent d'accueil. Mon numéro de téléphone portable est sur le site du Défenseur des droits, mais je le rappelle, 06 63 22 77 57. Par courrier gratuit, sans affranchissement, en saisissant directement la Défenseur des droits. Défenseur des droits, libre réponse, 71 120 75 342 Paris CEDEX. Par le formulaire en ligne www.défenseurdesdroits.fr. J'ai besoin d'aide et on renseigne la téléprocédure. Et notre plateforme téléphonique, le 09 69 39 00 00 ou le 39 28 pour toutes les questions liées aux discriminations. Et depuis les lieux de privation de liberté, le 31 41.
J'aime bien cette notion de foraine. Bon, c'est-à-dire que tu peux tourner sur différents lieux si tu es interpellé, saisi, et ne serait-ce que pour donner sens et vie au concept d'éducation populaire aussi, parce qu'effectivement, cela peut intéresser des groupes d'habitants de te rencontrer pour te faire part aussi de leurs difficultés d'accès aux droits.
J'aime bien aussi ce concept, la permanence foraine ou la permanence d'aller vers.
Voilà, ça me semble être important. Donc, nous allons aborder la dernière partie avec les communiqués. Soit effectivement, si tu veux, tu peux assister, ou soit si tu as affaire aussi, tu peux, comme tu le
sens. Je peux rester jusqu'à la fin de l'émission. D'accord. C'est un plaisir d'être parmi vous.
Alors, merci Stéphane. Alors, première information, c'est le ZEF, le numéro de téléphone, c'est 04 91 19 20. Alors, à la Gare Franche, 7 chemins des Tuileries, le samedi 4 avril 2026 à 18h30, la cuisine avec la bande rencontre, soirée Manifatura Couscous Pirate. Dans le cadre de sa troisième et dernière résidence de la saison, Floriane Fakini invite Fatima Wassak, qui est une essayiste, politologue, militante écologique et antiraciste, autrice des livres pour une écologie pirate et la puissance des mers. Tandis qu'à la ZEF, au ZEF Seine Nationale, avenue Rémy 13014, du jeudi 9 au vendredi 10 avril 2026 à 20h, il y a du théâtre, une bonne histoire, Adina Secrétin, compagnie La Section. En 2003, un groupe d'altermondialistes entreprend la rédaction d'un ouvrage destiné à rendre public divers faits incriminant la multinationale Nestlé et ses pratiques controversées en matière de droit du travail, d'environnement et de fiscalité. Ça doit parler à Stéphane. 14 et 15 avril, gratuit sur réservation, ciné-mino, parce que vous savez que ce sont les vacances scolaires du mois d'avril, aux îles Voix de la Forêt. C'est pour les enfants de moins de 6 ans. Il y a cinéma discussion pour les plus grands à partir de 16 ans, le 15 avril, à partir de 19h, sur le film Loubien Junior Borgo. L'espace culturel Busserine, rue Maboubitir, dans le 14e, numéro de téléphone pour toute réservation ou information, c'est le 04 13 94 86 00. Samedi 4 avril, à partir de 20h, il y a un concert, bien sûr, qui est un groupe de musique électro-disco anatolienne créé à Marseille. Le jeudi 9 et vendredi 10 avril, 9h40 et 14h40, concert des Minots, Tarpimpin, Cœur de Louvre. C'est un concert qui est un spectacle qui aborde avec humour les thématiques vécues par les enfants de 6 à 11 ans. Le vendredi 17 avril, 18h30, théâtre, festival des journées particulières, mise en avant des personnes en situation de handicap, donc nous en avons parlé tout à l'heure, dans une volonté de mixité sociale. Cela se déroule le vendredi 17 avril. Le mercredi 22 avril à 14h, ciné-cinéma, ciné-vacances, Mia et le Lion Blanc. Concernant le centre social Saint-Barthélemy, ex-maison des familles et des associations, il y a une soirée karaoké à laquelle Stéphane participera volontiers. Alors cela se déroule demain vendredi 27 mars à partir de 19h. Il y a la reprise des apéros pétanque le mardi soir à partir de 17h. Atelier sport femmes le lundi de 14h à 15h30. Atelier senior les mardis après-midi de 14h à 15h30. Aide aux devoirs parents-enfants le mercredi matin de 9h40 à 11h. Il y a une brocante le 11 avril, sortie à Tarascon le 22 avril, permanence médian stress le lundi matin, sans rendez-vous, l'après-midi, sur rendez-vous. Mercredi après-midi, cours de théâtre et break pour enfants. Pour plus d'informations, vous contactez la MFA au 04 91 02 35 75. Concernant le centre social Agora, donc vous informe que dans le cadre de ces actions, elle souhaite renouveler la semaine éco-citoyenne pour sa troisième édition. Cette année, la semaine éco-citoyenne se déroulera du lundi 27 au jeudi 30 avril 2025, avec un temps fort organisé le mercredi 29 avril. Alors nous allons passer au centre social Flamand Iris. Alors nous, restez toujours à l'écoute. Alors, donc, pour les événements à retenir concernant le centre social Flamand Iris, il y a un vide-grenier devant la place du centre social Flamand Iris le dimanche 12 avril de 8h à 13h. Donc, 5 euros la place pour les exposants. La fête du printemps, animation pour les enfants, atelier créatif pour les adultes, mini carnaval pour grands et petits le mercredi 29 avril de 14h à 17h30. Le 3, tous les mardis, sport santé entre femmes et pour les professionnels. Tous les jeudis matins, il y a LAEP. Tous les mercredis après-midi, permanence mission locale sans rendez-vous. Atelier emploi mardi et jeudi sur rendez-vous. Tous les jeudis matins, il y a LAEP. Tous les vendredis matins, crèche mobile, hors vacances scolaires et atelier jardin ouvert à tout public. Inscription déjà ouverte à l'ACM pour les vacances de Pâques. Donc, vous savez tout concernant les activités. Donc, pour tout contact, toute information complémentaire, vous composez le 06 50 20 85 67. Alors, je renouvelle mes remerciements, mes très vifs à Stéphane d'être venu. Nous espérons qu'il nous tiendra informés en fonction de l'évolution. Il y a des communiqués si nous n'avons pas le temps, si nous ne renouvelons pas notre invitation, même si cela pourrait se faire et que tu peux, maintenant que tu connais les locaux du comité, tu passes et tu nous dis voilà, j'ai une information importante à vous communiquer. Il n'y aura pas de souci pour que nous puissions te laisser la place pour le micro ou bien que nous puissions diffuser ton communiqué. Qu'est-ce que tu en penses?
Avec plaisir, Jean-Marc. C'est toujours un plaisir de venir à Saint-Barthélemy. Et puis, moi, j'ai envie de conclure en disant qu'il n'y a pas de meilleure épée que l'application du bon droit.
C'est une excellente formulation pour terminer. Nous remercions la politique de la ville, préfecture des Bouches-du-Rhône et la métropole qui apportent leur contribution à la réalisation des échos du Grand Saint-Barthélemy. Donc, comme je vous le disais, l'émission touche à sa fin. Merci pour votre écoute et que cette musique vous accompagne pour poursuivre votre journée avec Yann Tiersen, continue de notre été, l'après-midi, sur le 88.4. Merci Sidi et merci à Sidi d'être toujours fidèle à notre rendez-vous.